alors? Elle te plaît, ma nouvelle cuisine?
Du Made in France? Tu te mets bien? T'as eu une prime. Non, je sais. Tu l'as eu d'occasion.
Le Made in France, pas comme les autres, c'est celui qu'on peut se payer. Et apparemment, certains ont du mal à y croire. Rendez-vous sur SoCook.com pour le vérifier et estimer le prix de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres.
Européen, courant de l'année 2023. La communauté telle qu'elle existe initialement, elle est partout en France et en Suisse.
Alors comment elle va fonctionner cette application? Est-ce qu'elle va fonctionner un peu comme un site de rencontre, à la manière d'un Tinder ou d'un Bumble? On doit swiper à gauche ou à droite? Ou bien est-ce qu'il y aura un système de petites annonces où chacun mettra un petit peu son parcours, sa volonté de faire du sport et puis on y répondra un peu comme on voudra?
Et ben c'est à l'intermédiaire entre les deux. En fait, il y aura à la fois des fonctionnalités qui peuvent faire penser à ces applications de rencontre. En fait, on va chercher une personne en particulier avec qui faire du sport, qui peut être tout à fait orientée sur la performance, par exemple. Je prépare une course et j'ai envie d'avoir une personne qui a les mêmes envies, le même niveau que moi. Tout comme ça peut être lié à une passion, à un centre d'intérêt ou quelque chose qui pourrait rapprocher ces deux personnes, alors que naturellement, elles ne se seraient pas forcément adressées la parole d'un point de vue sportif. La plateforme, en fait, sera faite en deux temps. Il y aura cette partie match et cette partie organisation événementielle. Ce qui fait qu'en fait, la partie organisation événementielle fait un peu plus penser à des plateformes de petites annonces où, moi, j'aurais été matchée avec un certain nombre de personnes. Et à l'issue de ces matchs, je pourrais créer des listes, en fait, d'amis sportifs et diffuser mes sorties sportives soit au grand public, à tout le monde, soit à ces listes d'amis restreintes. Et là, après, les personnes pourront dire, moi, je suis dispo ce soir pour le footing avec toi. Et s'inscrire en fait directement sur la plateforme pour dire je suis disponible. Ce qui permettra aussi de fluidifier la coordination parce que moi j'aurais juste à aller sur un espace sans avoir à échanger des numéros de téléphone et des SMS, etc. pour savoir qui est disponible pour ma séance et donc se retrouver à un instant T, à un point donné et partir faire la séance ensemble.
À la base, la volonté de création de cette application, elle est plutôt sociale, on va dire pour faire des rencontres, mais elle a aussi un aspect un peu sécuritaire, c'est-à-dire que, notamment quand on est une femme, parfois on se pose la question de est-ce qu'on va aller courir dans un endroit un peu sombre, un peu isolé? Là au moins la question se pose plus trop puisqu'on est capable de trouver des gens qui vont nous accompagner sur une course ou sur une promenade à vélo ou un autre espace sportif.
Tout à fait, en fait c'est même sécuritaire, non pas uniquement pour les femmes mais pour tout le monde. Là on cite l'exemple des femmes, il est assez évident, mais ça peut être sécuritaire pour des personnes un peu plus âgées qui veulent pas faire du sport seules parce qu'elles ont peur qu'il leur arrive un petit pépin de santé potentiellement et que ça les rassure de se dire qu'elles font du sport avec quelqu'un qui pourrait potentiellement prévenir des équipes paramédicales au besoin. Ça peut être sécuritaire dans le sens où je vais dans une nouvelle région, je ne connais pas les routes, je pense par exemple à tous les sports d'extérieur, et donc j'ai pas envie de me retrouver dans une zone qui va un peu craindre, ou j'ai pas envie de me retrouver dans une zone où il y a beaucoup d'accidents avec les voitures parce que je suis à vélo et je sais que les utilisateurs sur cette route-là ils roulent pas bien, et donc je vais bénéficier de l'expertise de locaux par exemple qui vont me dire non, passe par cette route, c'est hyper dangereux, passe plutôt par la route d'à côté qui est vachement plus calme, avec moins de trafic, etc. Et en fait, cette notion de sécurité elle est évidente pour les femmes, mais en fait elle existe également pour tout type de profil qui voudrait éviter de mettre sa santé en jeu, quelle que soit la notion de santé, et qui vont avoir besoin en fait de ce lien social dès lors qu'ils se retrouvent en plus de ça en dehors de leur route ou dès lors qu'ils commencent un nouveau sport ou qu'ils font quelque chose en fait qui va changer de leurs habitudes.
Il y a aussi un côté un peu motivation parce que c'est vrai que après une journée de travail, on arrive parfois chez soi un peu fatigué. Là, au moins, on a quelqu'un qui va peut-être nous pousser à sortir, à aller courir, à aller faire du sport, et ça peut être que bénéf.
Bah oui, en fait, il y a un effet, on va dire, positif au fait de devoir rencontrer quelqu'un et de devoir retrouver une personne, c'est que ça nous force à devoir se bouger et aller forcément rencontrer cette personne et éviter en fait le côté je suis arrivée chez moi, je me suis assise dans mon canapé et en fait un peu flemme de sortir. Donc ça c'est le premier point. Et le second, c'est que ça permet aussi à beaucoup de personnes parfois juste d'aller se dépasser un tout petit peu. Alors on parle pas forcément tout le temps de performance, mais la notion de se dépasser, c'est ça va être tu es en train de papoter avec quelqu'un et si t'avais été seul, tu n'aurais peut-être fait que 5 km de footing, mais parce que t'es avec cette personne, tu vas faire 6 ou 7 parce que le moment est bon, c'est un moment agréable et donc tu vas continuer en fait l'expérience et tu vas faire quelque chose que t'aurais peut-être pas fait si t'étais seul. Et donc ça permet à la fois d'éviter d'abandonner, d'éviter en fait finalement le côté flemme, mais en même temps aussi ça permet de se dépasser.
Comment ça va se passer l'inscription sur Smatchy? J'imagine que ça va être gratuit pour pouvoir accéder à l'application et rencontrer des gens. Mais après, tu m'expliquais qu'il y avait aussi une version premium qui allait être lancée, notamment pour faire des rencontres un peu plus intimes, on va dire.
On va construire l'application de telle sorte à ce qu'une grande partie des fonctionnalités soient gratuites pour les utilisateurs et certaines fonctionnalités spécifiques nécessiteront la prise d'un abonnement, qui pourra être mensuel, annuel, selon la volonté de tout à chacun et selon les tarifications. Et entre autres, une des fonctionnalités qu'on mettra en payante, c'est la fonctionnalité Love, qui est une fonctionnalité qui nous a été demandée par les utilisateurs, qu'on trouve assez intéressante parce que en effet, il existe un univers du dating un peu, on va dire, caché dans le monde du sport, puisque finalement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent sur un lieu sportif, mais pas assumé. Or, il y a beaucoup de personnes qui, dans l'univers sportif, aimeraient pouvoir rencontrer des personnes qui partagent le même sport, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, parce que, et je vais par exemple donner l'illustration du cyclisme ou du triathlon, qui sont des sports qui nécessitent beaucoup d'heures d'entraînement et donc un investissement assez fort. Dès lors que vous passez beaucoup de temps finalement en extérieur de votre domicile, il est quand même beaucoup plus agréable de construire une relation avec une personne qui va partager ces sports-là avec vous et donc qui va être dans la même construction que vous, qu'une personne qui ne comprend pas votre pratique et en conséquence, ça va créer des dissonances. Le deuxième plan qui était intéressant par exemple avec la fonctionnalité Love, c'est qu'il est extrêmement pressurisant de se retrouver face à un total inconnu ou une totale inconnue dans un resto ou dans un bar, alors que là en fait c'est un moment sportif, c'est finalement quelque chose qu'on aurait fait quoi qu'il se passe, on aurait fait cette séance là, c'est juste qu'on propose de la partager avec une personne qui peut-être pourrait nous plaire. Et donc ça retire un peu aussi toutes les barrières et tout le côté un peu pressurisant d'un date, parce que au final, vous allez juste faire votre séance de sport avec quelqu'un qui, avec qui vous pourriez peut-être construire quelque chose et on verra ce que l'avenir vous réserve. Et c'est toutes ces petites fonctionnalités qu'on va réfléchir qui auront ce petit truc en plus et qui là, elles seront payantes.
Ok, c'est quoi alors le futur de Smatchy? Comment ça va se passer dans les prochains jours?
L'objectif, c'est que la version 1, la version bêta de notre application sorte courant du deuxième trimestre 2023. Elle sera testée d'ailleurs en exclusivité par notre ancienne communauté et par nos actionnaires, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui vont investir dans notre levée de fonds pourront tester l'application. Et volontairement, en fait, on a rendu la levée de fonds extrêmement accessible puisque tout le monde peut devenir actionnaire dès 11,15€. Donc c'est vraiment pas un gros montant. On a tendance à dire, voilà, aujourd'hui tu mangeras pas un fast-food, tu vas investir dans une start-up. C'est un petit peu l'image qu'on donne. Et une fois l'application lancée sur cette communauté qui va finalement la tester, on ouvrira en fait les frontières et on ouvrira le périmètre pour pouvoir aller chercher plus d'utilisateurs plus loin et sur plus de sports. Et évidemment, l'objectif, ça va être de créer des événements, des happenings qui seront faits conjointement, potentiellement avec des clubs, des groupements, des marques, et qui permettront en fait de mettre en avant certains sports, mettre en avant certaines pratiques et peut-être potentiellement aussi certains utilisateurs, parce que il arrive plein de fois que j'entends de « oh non, c'est pas un sport fait pour moi, je suis » et quelque chose de très négatif qui va suivre ce « je suis ». Et on se rend compte que à travers les événements, à travers la rencontre avec des athlètes ou à travers beaucoup de choses, on peut casser certains codes et certaines barrières. Et donc tout l'objectif sera aussi d'utiliser Smatchy dans l'objectif de recréer ce lien local entre les personnes, entre le pro et l'amateur, entre le haut niveau et le débutant. Et tout l'objectif, ça va être de nous utiliser, d'utiliser le digital pour recréer ce lien local.
Merci Maude d'avoir répondu à ces quelques questions et puis on souhaite bonne chance à l'application Smatchy afin que de nombreux sportifs puissent se rencontrer grâce à l'application. Can I have your attention,
please? Hey, this is Taylor Swift. Salut, c'est Julien Doré sur Vibration.
Salut, c'est Amir.
Just a relief, but...
Salut, c'est Slimane sur Vibration.
Avec Vibration et vos artistes préférés, vibrez avec nous. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm when I'm with you, I'm an
La nuit, c'est le moment sur Vibration où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 2.
La batterie des véhicules électriques et hybrides est-elle un problème pour la planète ? S'il y a bien un sujet qui est sur toutes les lèvres quand on parle de ces nouvelles mobilités, c'est celui de la batterie. Aujourd'hui, on ne sait pas les recycler, nous disent certains, et ça donne donc un véhicule en réalité beaucoup plus polluant que son équivalent thermique. Affirmation qui apparaît comme une vérité absolue pour beaucoup. Évidemment, tout n'est pas faux, sauf que la réalité est en fait un petit peu plus complexe. Commençons par aborder la question de la durabilité d'une batterie. C'est le point qui fait que certains acceptent ou pas de se tourner vers un véhicule électrique plutôt que thermique. Pourquoi ? Parce que la batterie coûte cher à produire et augmente donc considérablement le prix du véhicule à l'achat. Heureusement, la technologie avance plutôt vite. Avec elle, celle des batteries des véhicules. La conséquence directe, c'est la baisse de leur prix de 6% entre 2021 et 2022, selon un rapport annuel de Bloomberg. L'autre conséquence, c'est leur durée de vie. Pas besoin de vous affoler si vous souhaitez passer à l'électrique. Les batteries ont une durabilité qui peut varier de 10 à 20 ans avant d'avoir à les remplacer, d'après les estimations actuelles. Et c'est même le cas si vous utilisez votre véhicule électrique tous les jours. Prenons l'exemple d'une petite citadine. Véhicule que possède Vincent Larnicole de la Fédération Française des Associations de Véhicules Électriques.
Moi, j'ai acheté ma Yon il y a plus de 10 ans, donc à l'époque, elle était garantie 50 000 km. J'en ai aujourd'hui 120 000, elle roule impeccable. Donc en termes de durabilité, au niveau des batteries, j'ai perdu un petit peu en autonomie, mais ça reste des voitures fiables. Et puis aujourd'hui, il y a Tesla qui annonce des batteries avec une autonomie d'un million de miles, je crois. Donc je pense qu'avec un million de miles, vous avez le temps de changer la carrosserie un certain nombre de fois. La technologie a énormément évolué depuis que moi j'ai acheté ma voiture. Aujourd'hui, on a des batteries qui sont fiables et qui sont durables.
L'autre question systématiquement soulevée quand on évoque les batteries des véhicules électriques, c'est le recyclage. Alors il est vrai que c'est aujourd'hui l'un des points noirs de ces nouvelles mobilités. Il est cependant aussi vrai de dire que la filière du recyclage existe déjà. Certes, elle est encore plutôt balbutiante et la raison est simple, le nombre de véhicules électriques en fin de vie est encore très faible.
Le recyclage aujourd'hui, c'est pas vraiment un sujet parce qu'il n'y a pas de batterie à recycler. Donc recycler une batterie de voiture électrique, c'est pas une difficulté. Il y a des entreprises qui sont en train de se mettre sur ce marché-là. Aujourd'hui, il y a les ventes de voitures électriques en masse sont quand même assez récentes. Donc il y a moi ma voiture que j'ai achetée à 10 ans, la batterie elle est pas encore à recycler. Donc qu'il n'y ait pas d'entreprise qui recycle les batteries, il y en aura lorsqu'il y aura des batteries à recycler, puisque les batteries en plus elles ont souvent une seconde vie. Une fois que elles ont perdu de l'autonomie, elles sont encore réutilisables dans des usages stationnaires où on peut utiliser des batteries vieillissantes.
Alors le problème, c'est qu'il va quand même falloir sérieusement s'y mettre un jour. Aujourd'hui, quand on parle de batteries de véhicules électriques, on considère principalement les batteries composées de lithium, un métal qui, en cas d'incendie, peut dégager des fumées toxiques et irritantes. Donc le stockage ne sera pas nécessairement une solution comme on peut déjà le faire pour les déchets nucléaires. Mais on vous rassure, beaucoup d'entreprises y travaillent aujourd'hui. Et parmi les solutions, il y a évidemment la réparation des batteries. Modèle qu'il faudrait d'ailleurs peut-être adopter de façon un peu plus globale dans notre quotidien au-delà des batteries. Donc ça, c'est l'une des pistes qui est envisagée, mais il y en a d'autres. C'est ce que nous explique Frédéric Mourier, l'un des fondateurs du projet Avatar Mobilité, qui conceptualise en ce moment un petit véhicule électrique aussi en mesure de se recharger tout seul. Même s'il admet que tout n'est pas forcément tout rose dans le recyclage des batteries, il reste optimiste.
Il y a des vraies questions à se poser et il faut se les poser, c'est important. Néanmoins, ça ne manque pas de solutions en face. On a déjà la possibilité effectivement de réparer les batteries en changeant des cellules qui seraient fatiguées et de redonner un second souffle aux batteries. On peut aussi, à partir de plusieurs batteries dites usagées, en refaire des neuves. C'est un petit peu la voie qu'on explore chez Avatar. On a déjà fait une batterie, par exemple, entièrement avec des cellules de récupération de seconde vie. C'est aussi choisir des chimies de batteries qui sont peut-être moins impactantes ou avec plus de cycles possibles. Néanmoins, c'est des sujets sur lesquels énormément de boîtes et de labos travaillent, avec des avancées régulières, presque quotidiennes, sur des batteries plus propres et plus de plus grande capacité, de moindre coût, etc. Donc il y a des vraies bonnes nouvelles qui arrivent. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut se désintéresser de leur réparation, réemploi ou recyclabilité. Les trois volets sont vraiment à explorer.
Il existe donc bel et bien des solutions. Et heureusement, les entreprises du secteur y travaillent déjà. Maintenant, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que réussir à recycler n'importe quelle batterie électrique de n'importe quel véhicule restera viable d'un point de vue environnemental ? Est-ce que la batterie est le seul problème du véhicule électrique ? Eh bien, ce n'est encore une fois pas si simple. La réalité aborde même un point un peu plus philosophique. C'est un fait, le véhicule électrique est aujourd'hui notre meilleure solution dans un système qui reste, dans tous les cas, l'un des plus polluants qui soit. Mais cette mobilité peut vite devenir un non-sens à bien des égards, et notamment quand on parle du poids du véhicule. Aujourd'hui, les constructeurs ont tendance à calquer le modèle du véhicule électrique sur son rival thermique, c'est-à-dire qu'on continue de produire des grosses voitures, comme des SUV par exemple, signe inconscient de réussite et de succès pour la plupart d'entre nous. Mais tout comme un véhicule thermique, un gros véhicule électrique est bien plus exigeant en termes de ressources. L'autre question à se poser désormais quand on pense nouvelle mobilité, c'est aussi notre rapport à nos déplacements. A-t-on vraiment besoin d'un véhicule qui permette de rouler vite et loin quand nos déplacements quotidiens ne sont finalement que de courts, voire de moyens trajets ? Aurélien Bigot est chercheur sur la transition énergétique des transports et pour lui, ces interrogations, toutes liées à la batterie des véhicules électriques, sont même centrales.
Une grande partie des impacts environnementaux du véhicule électrique sont liés à la production de la batterie et du coup, on a intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus légers, qui consomment moins d'énergie et des véhicules pour lesquels la batterie et du coup l'autonomie ne sont pas trop surdimensionnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véhicules électriques qui sont vendus par les constructeurs, ça va être des véhicules électriques de 1,5 tonne, voire plus, qui vont avoir plusieurs centaines de kilos de batterie et pour lesquels on va miser sur une autonomie de l'ordre de 300-400 km, etc. Alors qu'en comparaison, en fait, les besoins du quotidien, les trajets qui sont faits au quotidien, en moyenne, ils font 11 km de distance. Pas forcément besoin de véhicules de 5 places qui vont jusqu'à 180 km/h avec 300-400 km d'autonomie, etc. Quand les trajets du quotidien sont souvent des trajets avec une, deux personnes à l'intérieur pour quelques kilomètres, sans qu'il y ait forcément besoin d'aller à 180 km/h. C'est possible sur aucune des routes en France. D'ailleurs.
Alors que penser de tout ça ? À la question, la batterie des véhicules électriques et hybrides est-elle un problème pour la planète ? La réponse est oui et non. Toute la question du recyclage et que l'on peut entendre dans toute conversation repose aujourd'hui sur son lot de clichés. La réalité est qu'effectivement le recyclage reste l'une des principales problématiques des batteries au-delà de leur production, mais la réalité est aussi que l'homme a toujours su s'adapter et qu'on travaille déjà sur cette question essentielle. Plusieurs alternatives s'offrent même déjà à nous, entre réparation, recyclage et même réutilisation de la batterie et de certains de ses éléments à des fins totalement différentes. Point que nous aborderons d'ailleurs dans un autre épisode de ce podcast. Il semble tout de même qu'aujourd'hui l'impact environnemental d'une batterie repose surtout sur l'utilisation que l'on en fait. Il semble nécessaire aujourd'hui de revoir notre rapport à la mobilité. Plus nos véhicules correspondront réellement à nos déplacements, mieux ce sera. Voilà pour la question de la batterie des véhicules électriques et hybrides, mais vous vous posez peut-être d'autres questions autour des nouvelles mobilités et de nos solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Baby.
Sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
La maison d'édition La Muse, basée en Centre-Val de Loire, publie deux bandes dessinées avec pour personnages principaux des femmes, une volonté de mettre les femmes à l'honneur. Le directeur de la maison d'édition, Fabien Muller, c'est au micro d'Alicia Méchin.
Avant qu'on parle de ces BD consacrées aux femmes de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous parler de la maison d'édition? Est-ce que sa naissance, voilà, revenir un peu sur sa création, parce que c'est une maison d'édition entre guillemets un peu spéciale, elle se consacre uniquement à l'histoire justement.
Voilà, donc c'est c'est une petite maison d'édition familiale. On l'a créée il y a une douzaine d'années avec ma mère. Elle aussi passionnée d'histoire et de littérature, et on a eu envie de faire de la vulgarisation sur l'histoire du Moyen-Âge, mais la vulgarisation n'est pas un gros mot, vraiment donner aussi ses lettres de noblesse à ce mot, c'est-à-dire mettre l'histoire à la portée du plus grand public en faisant des ouvrages très précis historiquement, mais avec une plume accessible à tous.
J'ai vu qu'elle était, que vous étiez soutenue par Cyclic et la région Centre. Vous êtes basé où exactement?
Alors, le siège est à Orléans et nos locaux sont à Aubillon-Gâtinais, donc petit village à côté de Bellegarde.
Et donc, vous lancez des BD destinés aux femmes de l'histoire. Déjà, pourquoi se lancer dans ce projet?
Alors, il y a 4 ans maintenant, ou 3 ans avant la crise du Covid. On a racheté Assort BD, qui était une petite maison d'édition également, spécialisée sur la bande dessinée historique, mais à la fois les gérants et les auteurs étant des personnes assez âgées, ils ne pouvaient plus gérer leur maison d'édition, et donc on a convenu d'un partenariat qui aboutit à un rachat. Et on s'est comme ça lancé en complément de nos ouvrages d'histoire dans de la BD historique sourcée. Et ça nous a donné envie de pérenniser, déjà parce qu'il y avait certains auteurs qui avaient envie de continuer à produire, soit en scénariste, soit en dessinateur. Et aussi, on avait, nous, nos propres dessins éditoriaux, nos propres envies éditoriales, notamment autour de la femme. Voilà, je suis un féministe barbu. je, Je trouve que la femme dans l'histoire n'a souvent sa place, elle est minorée, elle est souvent dans l'ombre des grands hommes. De nos jours, c'est pas non plus facile tous les jours d'être une femme dans une société qui est très très patriarcale, hein, sous le joug un peu de la religion judéo-chrétienne. Et donc, du coup, on a vraiment eu envie de mettre les femmes à l'honneur, que ce soit les dessinatrices ou les autrices d'aujourd'hui, que les personnages historiques féminins.
Deux BD pour le moment ont vu le jour. La première sur Marie-Madeleine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement, sans évidemment dévoiler tout l'ouvrage, mais nous expliquer un peu comment est-ce qu'il est conçu?
Alors, Marie-Madeleine, c'est quand même une figure emblématique de la religion catholique romaine. Elle est nommée l'apôtre des apôtres. Et c'est vrai qu'elle fait partie de ces femmes qui ont accompagné le Christ au même titre que sa mère Marie ou d'autres. Donc Marie-Madeleine, on focalise vraiment sur le personnage, avec en trame de fond bien sûr la vie du Christ qui est indissociable quelque part. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se focaliser sur ce personnage et d'avoir un regard nouveau. C'est pas une femme potiche, c'est au contraire, c'est une femme assez forte, charismatique aussi, qui a peut-être probablement influencé peut-être le Jésus dans sa vie, dans ses choix, parce qu'une construction personnelle se fait à deux de toute façon.
Et puis alors, deuxième bande dessinée, c'est Le Jeu des Dames. Alors là, pour le coup, de qui parle-t-on?
Alors là, Le Jeu des Dames, en fait, c'est une fiction. On n'est pas focalisé sur un personnage historique féminin précis, mais sur des femmes du peuple et de la petite bourgeoisie bourguignonne à la fin du Moyen-Âge, qui, avec sang-froid et malice, vont déjouer une sorte de complot politique. Donc on est sur une trame historique réelle et assez forte. Et on a ces femmes qui agissent un petit peu dans l'ombre, avec toutes les implications que cela peut avoir sur la vie de la cité de Semiramis, sur ses habitants, si jamais le complot réussit, ou si elles se font en quelque sorte attraper dans la lutte contre ce complot, en fait. Donc c'est voilà, le scénario est de Marc Ré, il est assez subtil, et le dessin est de Isa Piton, qui est une dessinatrice juste extraordinaire. Et on est là vraiment sur deux BD complètement différentes. Claire Bigard ayant dessiné, colorisé elle-même à l'aquarelle, Isa Piton ayant un trait complètement différent. Et donc voilà, ça fait deux beaux ouvrages. Très complémentaires dans leur conception et dans leur scénario et dans leur forme.
Vous me disiez que Le Jeu des Dames, l'intrigue se passe en Bourgogne, c'est ça?
Oui, dans la ville de Semur-en-Auxois, qui a encore aujourd'hui un très beau passé historique. Hein. Il y a des très beaux bâtiments, des très beaux vestiges de ce qu'a été sa vie médiévale. Et l'auteur étant bourguignon, il avait envie de mettre en valeur un petit peu ce village-là. Et on redécouvre ce mur en Auxois tel qu'il a pu exister au Moyen-Âge. Voilà. Avec son château, ses tours, ses ruelles et venelles, et c'est rigolo pour ceux qui habitent ou qui connaissent la ville, hein, comme moi j'y suis déjà passé, c'est de se replonger un petit peu dans cet univers médiéval qui est toujours présent à Semur-en-Auxois, mais là on a vraiment une cartographie qui est très nette.
Est-ce qu'il y a déjà en cours d'autres projets de bande dessinée?
Alors, il y a d'autres projets, effectivement. Après, voilà, je vous cache pas que la crise du Covid, pour une toute petite maison d'édition comme la nôtre, elle a fait des dégâts. Donc, pour l'instant, on a mis un peu les projets en stand-by pour le temps de se refaire une trésorerie. On va vendre un petit peu ces deux BD pour les rembourser déjà. Et ensuite, oui, on a d'autres projets. Notamment, j'aimerais bien qu'on aborde le personnage de Jeanne d'Arc, hein, vu qu'on est sur Orléans, ça serait intéressant de pouvoir refaire une BD différente de ce qui existe déjà. Mmh. Le personnage de François Villon aussi m'intéresse beaucoup et pour la bande dessinée Marie-Madeleine, si on avait une femme qui peut être soit la sœur de Villon, soit une compagne, soit une prostituée, et avoir Villon en trame de fond, ça permettrait de parler de prostituée parce que je pense que même dans notre société d'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup à faire c'est peut-être idiot de ma part ce que je vais dire, mais pour accompagner ces femmes-là qui sont à la fois utiles et méprisées, et donc
si on souhaite évidemment commander Marie-Madeleine et le jeu des dames, comment on fait?
Alors, j'espère que les librairies d'Orléans et d'autour vont entendre cette émission et nous le commander pour le rendre disponible auprès du plus grand nombre. Si jamais on n'arrive pas à le trouver en librairie, il est toujours possible de le commander directement à la maison d'édition. Notre site internet, édition La Muse, tout attaché et au singulier, EDITIONLAMUSE. .fr. Donc on a tous nos ouvrages, les deux dont on vient de parler, mais également les autres bandes dessinées et tous les ouvrages d'histoire. Et sinon, voilà, je sais que d'autres grands distributeurs comme la Fnac par exemple, certains distributeurs le mettent aussi sur Amazon. Bon, même si je préfère que l'on fasse marcher les petits commerces et qu'on aille directement chez le libraire. Voilà, on a plusieurs possibilités pour les trouver.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Fabien Muller, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter?
Quelque chose à rajouter? Intéressez-vous à l'histoire, intéressez-vous aux arts graphiques. Ces BD, ça peut être des formidables cadeaux de Noël pour les fêtes qui approchent. Et puis même, personnellement, pour se cultiver, se distraire, voilà, ça peut être un bon moyen.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Tus billetes para amarte, no quiero ver nada más. Posible es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión.
La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Bienvenue sur Vibration, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur Vibration.
Les défis de la parentalité.
Et épisode 4 aujourd'hui, on aimerait laisser nos enfants jouer, s'amuser, ne se soucier de rien. Pourtant, parfois, la vie prend une tournure plus grave, maladie, décès, séparation, guerre. Comment évoquer ces sujets avec eux? Quels mots choisir? Jusqu'où peut-on aller? On en discute avec Fabienne Cochère, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Il faut bien comprendre que les enfants, ils perçoivent beaucoup de choses et que ils sont beaucoup plus sensibles au langage émotionnel qu'au langage en lui-même, hein, et que la compréhension des émotions précède la compréhension du langage. Hein. Le bébé, c'est un être d'interaction. Hein. Donc très tôt, si par exemple une maman ne va pas bien et qu'elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce que il peut pas engager de relation. Donc très tôt, les enfants, comme ce sont le petit humain, c'est un être de communication. Donc en fait, ils ne cherchent que ça. Hein. Ils ne cherchent que la communication. Donc très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce que il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, bah, ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement et souvent je leur dis, ah bah oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que bah c'est on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien. Mais que il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il faut pas tout leur dire aux enfants non plus. C'est-à-dire que comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais que elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire que faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. Ben, on est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt. Et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans du... Enfin, vous êtes pas souriant, là ça va prendre beaucoup de valeur pour l'enfant. Ils sont très, c'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage. C'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez, où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses, et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes. Très tôt, les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche. Hein. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour, le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est multimodal. Hein. C'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit, bah oui, aujourd'hui, maman arrive plus tard, tout ça, c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui, d'un côté, pourrait être très stressante parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes les mamans et que lui, il est toujours là. Si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, il va avoir appris que, oui, maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple, quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, on en a beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? De toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on pouvait plus sortir, on pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Hein. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel, et puis que on naît, on grandit, on devient adulte, et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, c'est sûr que ça risque d'être compliqué, et puis, lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent, les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques, alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors, souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça. Et un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si, par exemple, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste. Mais il y a quand même une génération, il y a la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. je crois qu'il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent, bah non, on va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Bah finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. Bah, c'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, hein, encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Il va presque se dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. Là aussi, être franc avec l'enfant, et surtout, éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire, ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples. Si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparés. C'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher, et il ne faut pas le mettre au cœur de conflits. Il faut éviter les conflits de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies. On a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. S'il se passe quelque chose à l'école. Alors, vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats. Ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. C'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler. Surtout si l'enfant en entend parler. Il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école. Il va forcément en entendre parler par les copains. Il y en a qui ont, à ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans. Sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cochère. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast. Vibration.
Dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a
dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur. Seulement regarde comme on est seul.
On a
iban, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor.